Mondial Sport.
Hugo Moissonnier.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Mondial Sport sur RFI. Le CHAN en Algérie à la une, choc décisif demain entre la RDC et le Sénégal pour les quarts de finale. RFI lance le match des supporters dès ce soir. En Europe, direction notamment l'Italie pour tout comprendre des déboires de la Juventus Turin. En Espagne, focus sur la Real Sociedad, la surprise de la saison en Liga. Le basket également au sommaire, la Basketball Africa League à la recherche de nouvelles pépites. Non pas en Afrique, mais en France. Enfin, rendez-vous en fin d'émission pour parler tennis et Open d'Australie. Mais comme promis, football et CHAN. Pour débuter, la CAN des joueurs locaux qui entre dans une phase décisive. Le dénouement de la phase de poule, troisième journée du groupe A ce samedi. Et le Mozambique accompagnera l'Algérie, le pays hôte, en quart de finale. Demain, ce sera au groupe B de livrer son verdict. Une poule dominée par l'Ouganda qui affrontera la Côte d'Ivoire dans un choc des extrêmes. Les éléphants derniers avec une seule petite unité au compteur. Dans l'autre rencontre, le Sénégal deuxième sera opposé à la RDC troisième avec un point de moins pour les Léopards par rapport au Lion de la Teranga. Un match sur le terrain bien sûr, mais aussi dans les tribunes puisque dans les deux camps, des supporters dévoués ont fait le déplacement en Algérie grâce à l'aide financière de leurs gouvernements respectifs. Thomas de Saint-Léger.
Heures d'avion, à peine autant de sommeil, une vingtaine de degrés en moins, mais ils sont là, une petite centaine de supporters de la RDC chantent sous la pluie battante d'Annaba. Debout congolais, maman léopard, tous les groupes se mélangent pour faire monter la température.
Ça sera chaud, il y aura du répondeur aujourd'hui.
Nous sommes là, souffrant par la température, pour soutenir notre équipe de la RDC. Les léopards mouillés restent très très contents, très contents et fâchés. À chaque fois, il est mouillé.
Plus fâchant que fâché, les Léopards n'ont pour l'instant pas brillé. Deux matchs, deux fois 0-0, mais tout le monde ne perd pas espoir.
Nous sommes là pour un mois pour prendre la coupe aussi. Quand on prend la coupe, on rentre chez nous à Kinshasa.
C'est ça le programme.
C'est ça le programme. Nous sommes venus pour prendre notre troisième étoile.
Allez, Sénégal !
Nous avons fait Dakar, Alger, Alger-Annaba. Bon, on n'a même pas senti le voyage. Hein.
Eux sont là pour voir leur pays remporter son premier CHAN. Quatre représentants du 12e Gaïndé sénégalais assistent au match contre l'Ouganda. Un petit comité d'irréductibles emmené par le président Sedina Issalaï Diop.
Chaque fois, le drapeau a besoin de nous. La nation a besoin de nous. Le 12e Gaïndé est présent. En tout temps et en tout lieu. Quand il neige, quand il vente, quand il chauffe, on est toujours derrière le Sénégal.
Ah, il y a eu but.
Oui, il y a le but. Mais ce n'est que le début du commencement. Le match ne vient de commencer. Bon, écoutez, ça dit 90 minutes, voire même 100 minutes.
Les grands ont fait la même chose pendant la CAN, mais aujourd'hui, la CAN, les petits vont faire la même chose.
Derrière chaque grand lion, il y a forcément une lionne. Voici la seule femme du groupe présente à Annaba.
Je m'appelle Tchat. Je suis la vice-présidente de la commission santé parce que je suis infirmière d'État, mais ça ne m'appelle pas de rester et de derrière l'équipe pour les pousser à gagner.
Il faut les soigner là.
On va bien les soigner. Quand on rentre à l'hôtel là, on voit bien les beautés. Ils vont gagner.
Cette fois-ci, c'est raté. Nouvelle chance demain contre la RDC. Thomas de Saint-Léger, Annaba, RFI.
Et Thomas de Saint-Léger qui a suivi donc la deuxième journée de la phase de groupe avec les supporters congolais et sénégalais, RDC Sénégal, Ouganda, Côte d'Ivoire, donc dénouement et troisième journée de la poule B du CHAN 2023 à suivre demain et on en parlera évidemment ce dimanche dans Mondial Sport. Allez, on va faire un tour d'Europe du ballon rond. À présent, on quitte le continent pour le vieux continent, l'Angleterre. Le résultat du jour, c'est le nul de Newcastle, troisième sur le terrain de Crystal Palace, 0-0. Et oui, on est en 2023. C'est Newcastle qui nous intéresse avec ses nouveaux moyens financiers. Pourtant, il y avait un Chelsea-Liverpool au programme ce samedi. Et dans un monde normal, cette affiche, elle aurait dû enflammer la 21e journée de Première Ligue. Mais les deux derniers clubs à avoir pu et su disputer le titre à Manchester City en Première Ligue sont en méforme, en très grande méforme cette saison. Bonsoir Philippe Auclair.
Bonsoir à vous et bonsoir à tous et à toutes.
Alors, quand deux équipes qui n'ont pas montré grand-chose depuis le début de la saison s'affrontent, eh bien ça donne pas grand-chose, en tout cas au niveau du score 0-0 entre Chelsea et Liverpool tout à l'heure.
Oui, ben, c'était l'un des chocs de ce week-end. Plutôt, ça aurait dû être l'un des chocs. Et très honnêtement, ce qu'on a vu était en fait un spectacle, je dirais, assez typique de celui que pourraient proposer deux équipes de milieu de tableau. Et en fait, c'est exactement ce que ces deux équipes sont en ce moment, puisque Liverpool est actuellement huitième et que Chelsea, ben, est dixième. Et que ni l'une ni l'autre équipe, bon, ça donnant-leur une petite excuse, ne sont au complet. Il manque énormément de joueurs d'un côté comme de l'autre. Mais même avec cette réserve, le spectacle offert n'a pas été à la hauteur. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de craintes, parmi ces joueurs, de faire le geste qui pourrait coûter une perte de balle, voire un but. Et du coup, dans ce face-à-face qui a tendance à donner pas mal de matchs nuls, mais généralement, c'est des matchs intenses, de haute qualité. Là, on a eu droit un 0-0 qu'on ne qualifiera pas de bon 0-0, on va dire ça comme ça. Il y a quand même des choses à remarquer. D'une part, bon, le fait que Liverpool ne prenne pas de but, ça c'est remarquable. Le fait que Chelsea n'en marque pas, par contre, ça c'est assez dans l'ordre des choses. Je pense que les supporters de Chelsea auront bien évidemment apprécié le début de Mikhailo Mudryk, qui est évidemment le joueur du Shakhtar Donetsk, qui a été soufflé par Chelsea et Arsenal et qui, ma foi, a fait une bonne entrée en jeu et est impressionné par ses prises de balles, sa technique, sa rapidité. Donc ça, c'était plutôt encourageant pour les Blues et pour les Reds. Ce qui était encourageant, c'est le retour de Darwin Núñez, qui a été certainement l'un des joueurs les plus actifs des Reds en fin de rencontre. Il faut dire que ce n'était pas grand-chose. Par contre, un joueur, et ça ne fait pas nécessairement plaisir de le dire, qui continue de nous décevoir match après match, c'est Mohamed Salah, qui n'est franchement pas du tout au niveau qui était le sien il y a encore une saison. Et cette équipe de Liverpool dégage vraiment l'impression de joueurs fatigués, un petit peu au bout du rouleau. Vivement que les blessés reviennent de leur côté, hein. Luis Diaz, Diogo Jota, Roberto Firmino, Virgil van Dijk, ça va prendre un certain temps. Et du côté de Chelsea, c'était pas formidable non plus. Donc, je dirais pas que c'est la montagne qui a accouché d'une souris, parce que c'était déjà une colline, on va dire ça comme ça. Mais franchement, oui, bon, c'est un match qui n'a pas vraiment tenu ses promesses, mais qui a confirmé le rang de ces deux grands clubs. Cette saison, ils ne resteront pas à ce niveau, hein, je vous rassure tout de suite. Mais là, pour ce qui est du top 4, je pense qu'on peut l'oublier. Avant même que la journée soit terminée, Liverpool pointe maintenant à 10 points du quatrième actuel, qui est Manchester United, tout comme Chelsea. Donc ça fait, bon, alors le titre, on n'en parle plus depuis un bout de temps, mais pour l'Europe, ça va être très très compliqué.
Alors, petite consolation pour les supporters des Reds, l'autre club de Liverpool est bien plus mal en point, à savoir Everton, qui joue en bleu. Les Toffees s'enfoncent, nouvelle défaite à Londres plutôt, face à West Ham 2-0.
Dans un match, c'est assez étonnant parce que sur le banc d'Everton, bien évidemment, c'est Frank Lampard formé à West Ham. Et sur le banc de West Ham, c'était David Moyes, l'homme qui a été l'âme d'Everton pendant si longtemps. Ça se demandait s'il n'aurait pas fallu les faire changer de côté au coup d'envoi. Peut-être que ça aurait souri à Everton. Une statistique assez effarante. C'est que Everton, qui a maintenant 15 points après 20 matchs et qui donc est en dernière position du classement, à égalité de points avec Southampton, Everton n'a jamais eu un total de points aussi faible après 20 journées depuis sa fondation. Et sa fondation, c'était en 1878. Ça vous donne une petite idée des problèmes qu'a cette équipe. Lorsque son propriétaire ou l'un de ses actionnaires principaux, Farhan Moshiri, est sorti du stade en compagnie de Bill Cartwright, le président, il a été accosté poliment au passage par quelques journalistes qui lui ont bien évidemment posé la question: est-ce que pour Frank Lampard c'est la fin? Et il a dit, la réponse du président et du propriétaire a été de dire ce n'est pas à moi de décider, ce qui est quand même une réponse assez extraordinaire venant de la part du propriétaire du club. Donc c'est vous dire que, bon, à tous les niveaux, c'est une équipe qui ne sait plus où il va, c'est un club qui ne sait plus où il va, qui a enregistré des pertes financières absolument colossales sur les 3 ou 4 dernières années, qui en plus de ça est en train de construire un nouveau stade sur les bords de la mer, à Liverpool, à savoir en quelle division ils seront lorsque ce stade sera construit, s'il est jamais construit, difficile à dire, mais là, il n'est pas du tout impossible que Everton soit face à quelque chose de pratiquement impensable, auquel ils ont échappé de justesse quelques saisons, c'est vrai, précédentes, mais c'est la relégation. Donc quelque chose doit suivre et je ne pense pas que Frank Lampard, qui n'a jamais été un choix particulièrement populaire auprès des supporters des Toffees, puisse durer très longtemps. Pour ce qui est de David Moyes, c'est la bonne nouvelle, dans la mesure où on savait que s'il perdait ce match, c'en était fini de son règne à West Ham. Donc, lui peut dormir tranquille pendant encore une semaine. Quant à Frank Lampard, je pense qu'il peut déjà songer à préparer ses valises et à songer à un autre boulot. Très honnêtement, ce n'est pas sur ce qu'il a fait Everton qu'on jugera nécessairement de ses qualités d'entraîneur, vu l'état dans lequel est ce grand club, un état qui fait vraiment peine à voir, un état piteux. Qui laisse présager des jours extrêmement difficiles pour ce club historique.
Merci beaucoup Philippe Auclair d'avoir été avec nous. On vous retrouve demain dans Mondial Sport pour débriefer le choc de la 21e journée de Première Ligue Arsenal-Manchester United. Direction l'Italie avec ce coup de tonnerre dans la botte. La vieille dame, la Juventus Turin, rattrapée par la patrouille des transferts douteux à l'origine de cette sanction. Bonsoir Matteo Cioffi.
Bonsoir Hugo.
Correspondant de RFI à Milan. On va comprendre, tenter de comprendre en tout cas avec vous, ce scandale qui touche le football italien et sa vieille dame. Que s'est-il passé? Pourquoi la Juve est-elle sanctionnée?
Tout simplement par l'histoire des plus-values. La Juve a fait un mercato avec des prix de joueurs, en échangeant des joueurs avec un prix qui n'était pas honnêtement celui réel. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une enquête. Les clubs bianconeri étaient écopés de 15 points de pénalité au classement par la cour d'appel de la Fédération italienne de football. Faut savoir que le parquet fédéral qui a conduit l'enquête en avait requis 9. Tous les autres week-ends, parce qu'il y a aussi des autres clubs qui ont été concernés par cette affaire, au contraire, ont été acquittés. Et puis les dirigeants, 11 dirigeants de la Juve ont été suspendus, dont l'ex-président André Agnelli, interdit d'exercer pour 2 ans, une tâche sombre pour l'histoire de la famille Agnelli, qui en 2023, c'est-à-dire cette année, fêtera 100 ans de propriété du club torinois. Puis, à noter l'interdiction de 30 mois pour l'ancien directeur sportif Fabio Paratici, reconnu comme le cerveau des plus-values fictives, sans sanction qui maintenant met sérieusement en doute et à risque son avenir à Tottenham, où il est actuellement le directeur général du club anglais.
Matteo Cioffi, cette sanction assez importante contre la Juventus Turin, désormais 10e de Serie A, est-ce qu'elle a entraîné des réactions dans l'entourage du club, au sein du club, et est-ce qu'on compte contre-attaquer, faire appel de cette décision?
Oui, alors le club, dans son communiqué, a accusé le tribunal d'avoir eu une différence de traitement par rapport aux autres clubs de l'enquête. Le même club Bianconero, hier soir, a publié sur son compte Instagram une image où on voit les joueurs de la Juve qui s'embrassent, comme a souligné que le groupe, en ce moment difficile, reste uni. La même photo, ensuite, est apparue sur les réseaux sociaux de presque tous les joueurs de l'équipe. Même l'ex-capitaine Giorgio Chiellini, qui joue aujourd'hui à Los Angeles, a voulu montrer sa solidarité à son ancien club en écrivant sur son compte Facebook « Quand tu es de la Juve, tu l'es pour toujours ». Alors, qu'est-ce qu'elle va faire la Juve? Les avocats de la vieille dame ont 30 jours à partir d'aujourd'hui pour faire recours au collège de garantie du sport du comité olympique national italien, qui devra se prononcer sur la régularité de l'enquête du parquet fédéral. Attention, ce collège n'a pas le pouvoir autonome d'effacer les 15 points de pénalité qui donc resteront d'ici jusqu'à la fin du championnat.
Et justement, d'un point de vue sportif, c'est une catastrophe. La Juventus est désormais 10e, loin derrière un Napoli, leader qui s'est de nouveau imposé ce soir sur le terrain de la Salernitana, 2-0 avec notamment Osimhen, le Nigérian buteur. La Juve, elle est très très loin maintenant des places Ligue des Champions, donc la situation va empirer, situation problématique en coulisses et une situation problématique sur le plan sportif.
Oui, bien, vous l'avez dit, Hugo, 10e place avec 22 points. Elle est détachée de 12 longueurs de la 4e marche du classement qui se compose du trio Lazio, Rome et Atalanta, qui sont tous ex aequo. Difficile de remonter jusque-là, mais pas impossible, car il reste encore à disputer 20 matchs. Il faudra certainement limiter au maximum les faux pas, et cela déjà à partir de demain soir face à l'Atalanta. Max Allegri, ce matin, en conférence de presse, a déclaré que rien n'est perdu et de vouloir gagner la Ligue Europea pour se qualifier à la prochaine Ligue des Champions.
Voilà, la Juventus Turin qui n'en est pas à son premier scandale. Je parle sous votre contrôle, Matteo Cioppi, et qui a su se relever. C'est un très grand club, mais très durement touché. Merci beaucoup, Matteo, d'avoir décroché votre téléphone pour nous expliquer tout ce scandale qui touche la Juve et cette sanction très lourde. 15 points de retrait pour la vieille dame dans le championnat italien. Allez, on va parler d'une équipe qui, a priori, se comporte bien sur le terrain comme en dehors, non pas en Italie, mais toujours dans le sud de l'Europe. En Espagne, le tube basque de la Liga se nomme la Real Sociedad, 18e journée du championnat. Et le club de San Sébastien qui est toujours accroché à sa 3e place. Une semaine après sa victoire dans le derby face au voisin Bilbao, le club de David Silva, l'ancienne star de Manchester City, s'est imposé tout à l'heure sur la pelouse du Rayo Vallecano 2-0 à l'occasion donc de la 18e journée du championnat d'Espagne. C'est un 9e succès de rang, toute compétition confondue, pour la Real. Pierre Chaperon.
Jamais la Real Sociedad n'avait enchaîné 9 victoires de suite, même pas à l'époque de leurs titres nationaux en 81 et 82. Une série historique donc qui fait rêver, quoique Ravière, supporter Churi Urdin, la quarantaine garde les pieds sur terre.
Cette année, c'est l'année. L'Atlético et Séville vont mal et nous, on va pouvoir se battre pour la Ligue des Champions. Le titre, non. Avec Barcelone et le Real là-haut, c'est compliqué.
Compliqué le titre. Pourtant, la Real Sociedad a des atouts. Une défense appliquée qui semble prendre en maturité à chaque sortie, à l'image du français Robin Lenormand, arrivé dans le club en 2016 et qui enchaîne les bonnes prestations. Même le gardien Alex Remiro, autrefois auteur de bourde, vient de signer son 14e match sans encaisser de but cette saison. Tandis que devant, bien servi par David Silva et Brais Mendes, le Norvégien Alexander Sørloth s'impose comme une des valeurs sûres du club avec 7 réalisations. Pour Nicolas, 25 ans, écharpe du club autour du cou, attention tout de même, la Real Sociedad est un habitué des bons départs.
Nous sommes sur une bonne dynamique depuis 3-4 ans maintenant. Et nous avons eu la malchance que depuis 3 ans, alors que nous sommes haut dans le classement, nous avons eu un coup de mou en décembre-janvier et on finit par se battre pour les dernières places européennes. Mais cette année, avec la Coupe du Monde, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais il reste encore beaucoup de matchs.
Et si la lumière venait de Mikel Oyarzabal, meilleur buteur en activité de la Real Sociedad, l'Espagnol buteur lors de la dernière finale de la Ligue des Nations contre la France en 2021, peut-être celui qui donne ce petit quelque chose en plus. Lui qui a été absent 9 mois après une rupture des ligaments croisés revient petit à petit dans l'effectif. Mais pour Yon, maillot bleu et blanc sur les épaules, la Real c'est surtout un collectif.
Oyarzabal est très important, mais ce n'est pas le facteur X de l'équipe. Parce que pendant 2 mois, on a tout gagné, on n'a jamais aussi bien joué et il n'était pas là. Avec lui, on va encore mieux jouer, mais ce n'est pas le facteur différentiel. Avec des gars comme Silva, Brais Mendes, Zubimendi, nous avons beaucoup de capitaines dans ce bateau. Ceux-là ont mis le Real là où il doit être.
Si tous les voyants sont au vert pour l'entraîneur Churi Urdin, Imanol Alguacil, pas de quoi s'enflammer. Avec seulement 18 matchs de jouer, la route est encore longue.
Notre obligation est de bien se préparer pour le prochain match. La Ligue des Champions, la Ligue Europa, tout ça c'est encore loin. Je dis toujours la même chose. S'il restait 5 ou même 3 matchs, parce que souvent au du classement les choses se décident à 3 matchs de la fin, à ce moment-là je pourrais répondre à cette question. Mais là, nous n'avons pas encore joué tous les matchs de la phase aller. Et donc l'objectif, c'est de préparer le prochain match et de le gagner.
Menu copieux pour la Real Sociedad, justement, puisque les joueurs de San Sebastián affronteront coup sur coup le FC Barcelone en Coupe du Roi et le Real Madrid en championnat. De bons tests pour se jauger et voir si le club peut aller plus haut. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Et le Barça et le Real, justement, seront sur les terrains demain en Liga. On en parlera dans Mondial Sport, bien sûr. La Basketball Africa League, la compétition créée par la NBA sur le continent africain, va bientôt lancer sa troisième saison. Et à quelques semaines de ce coup d'envoi, ses dirigeants ont organisé, il y a quelques jours, un stage de détection pour recruter de nouveaux joueurs, de nouvelles pépites, non pas en Afrique, mais à Noisy-le-Grand, à quelques kilomètres de Paris, sous les yeux de Cédric Deoliveira.
Pierre Vandriech a 22 ans, il est français mais sa mère vient du Rwanda, un pays dont il a déjà porté le maillot en compétition. Ce combine était le bon moment pour convaincre des clubs au milieu de concurrents très déterminés.
L'intensité est assez élevée, ça court beaucoup, voir 30 pros qui viennent des meilleures ligues du monde. Franchement, je ne m'attendais pas à un niveau aussi élevé.
Déjà participant à la deuxième saison de la BAL l'an dernier, celui qui peut jouer à la fois meneur et arrière espère qu'un club lui fera de nouveau confiance, mais un nouveau contrat ne lui est pas garanti.
Ça se joue sur des détails parce qu'on sait tous jouer au basket, on a tous des qualités et après c'est en fonction, je pense, des recherches de chaque club.
À côté de lui, le président de l'ABC d'Abidjan, Touré Boubakari, est en grande conversation avec son staff pour dénicher la perle rare.
J'ai trois éléments que je souhaite avoir, c'est-à-dire un bon pivot, 4-5, un poste 1, vraiment costaud, et puis un tireur, un bon allié.
Comme lui, les présidents de clubs ont répondu à l'invitation de la Basketball Africa League, une compétition qui, à l'orée de sa troisième saison, commence à s'installer sur le continent.
Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League. L'idée, c'est de rassembler des joueurs qui sont venus pour la plupart des États-Unis et aussi des joueurs de la diaspora africaine ici, basés en France. Et les 12 équipes de la BAL sont venues pour évaluer ces joueurs.
La BAL est enthousiaste, tout comme la FIBA Afrique. Son secrétaire général Alphonse Billet y voit une magnifique opportunité.
Que ces dirigeants de clubs qui n'ont pas la possibilité de voir tous ces joueurs aient vraiment une ouverture. C'est un peu une espèce de draft. Ils peuvent le voir que sur ce moment, ce que j'appelle un peu la diaspora, il y a des joueurs d'origine africaine qui vont intégrer, donc c'est aussi la diaspora, et puis il y a des joueurs américains.
Le prometteur Zaire Wade est là, notamment accompagné de son illustre père Dwayne, triple champion NBA. La puissante ligue nord-américaine qui a lancé la BAL a d'ailleurs été très présente à Paris cette semaine. Un match de saison régulière a eu lieu jeudi entre les Chicago Bulls et les Pistons de Détroit. L'occasion parfaite pour les instances africaines d'organiser également ce combine.
À Paris, parce que nous nous rapprochons de la diaspora africaine et aussi la NBA organise un match ici.
Paris est une opportunité parce que c'est un peu le centre de l'Europe pour les joueurs africains pour la plupart. Et surtout, il y a toute l'expertise américaine qui est là et ça nous permet d'organiser vraiment ce combine de manière intéressante.
En tout cas, tout le monde semble y trouver son compte. Touré Boubakari a bien une idée pour renforcer son effectif.
Il y a de la qualité, ça c'est sûr. Il y a un ou deux qui peuvent nous taper dans l'œil.
Oui, c'est qui?
Pour le match, c'est trop tôt.
C'est trop tôt.
Voilà, je ne peux pas vous dire.
Quant à Pierre Vandriech, il espère bien que ces deux jours lui permettront de retrouver les parquets africains qui séduisent de plus en plus.
Les joueurs africains, ils ne sont plus uniquement à vouloir jouer en Europe. Ça donne vraiment un objectif dans leur continent et franchement, je trouve ça vraiment incroyable.
Ça sera peut-être à Dakar ou au Caire où les équipes de la BAL se retrouveront à partir du mois de mars pour débuter la troisième saison de cette compétition ambitieuse.
Cédric Deoliveira et son accent américain. Le tennis, avant de se quitter, des nouvelles du premier grand chelem de la saison, l'Open d'Australie. Bonjour Christophe Taureau.
Bonjour Hugo.
Je dis bonjour car à Melbourne, chez vous entre guillemets, c'est déjà dimanche matin. Alors avant de dérouler le programme du jour, retour sur la qualification hier de l'ex-tricard, si je puis dire, Novak Djokovic face à Dimitrov le Bulgare.
Oui, qualification assez inattendue, hein, parce qu'on le sait, Novak Djokovic est blessé, mais franchement, comment ne pas être épaté par le courage répété du champion serbe. Le parcours de Djokovic cette année à l'Open d'Australie, il rappelle son parcours en 2021, quand il avait réussi à gagner ce tournoi malgré une blessure abdominale. Et ce samedi soir à Melbourne, dans une Rod Laver Arena en folie, le Serbe s'en est donc tiré encore une fois contre Grigor Dimitrov, malgré cette blessure à l'ischio de la jambe gauche qu'il continue sans doute d'aggraver, hein, match après match. Ça, il n'y a pas besoin d'être médecin pour le dire, hein, tant le Serbe tire sur sa cuisse. C'est ce qu'il a fait encore pendant près de 3 heures pour battre son copain Grigor Dimitrov, qui était dans une drôle de position, hein, parce que c'est deux joueurs qui sont très très proches. Mmh. Et donc, aussi étonnant que ça puisse être, le rêve de l'ex numéro 1 mondial de remporter un 10e Open d'Australie, eh bien ce rêve, il est encore vivant malgré cette blessure. Alors, en 8e de finale, Djokovic, il a un autre défi à relever, ça va être de battre devant les siens l'Australien Alex de Minaur, 24e mondial. Alors, si vous ne le connaissez pas, Alex de Minaur, c'est un joueur increvable, c'est l'un des plus rapides, c'est l'un des plus endurants du circuit, et c'est exactement le type de joueur à même de gêner Djokovic. Il va le faire souffrir, il va faire durer les échanges. Donc ça va être terrible pour Novak Djokovic, et on va voir s'il va passer un nouvel obstacle, et pourquoi pas continuer son parcours dans cette Open d'Australie et aller chercher ce 10e titre dont il rêve. Ce Novak Djokovic Alex de Minaur, bah, c'est le match que toute l'Australie attend déjà, évidemment, et il est programmé lundi à Melbourne. Ce sera sans doute évidemment dans la session de soirée, ça va être le match du jour lundi, évidemment.
Et quand je parlais de Tricard, hein, je faisais allusion bien sûr au fait que Novak Djokovic n'avait pas pu disputer l'US Open, l'Open d'Australie pardon, récemment, faute de vaccin contre le Covid. Donc il y a beaucoup de revanches et beaucoup d'obstacles à surmonter du côté de Melbourne pour Djokovic. Ouais. Allez, on quitte le tableau masculin, Christophe Taureau, pardon, pour le tableau féminin, je vais y arriver, chez les dames, la dernière chance française se nomme Caroline Garcia, ça passe pour la française.
Ouais, mais la gagnante du dernier Masters féminin s'est quand même fait une belle frousse, hein, face à cette Laura Zygmunt, qui est une joueuse allemande, une ancienne membre du top 30. Même si elle a concédé la première manche, eh bien, Garcia, on peut le dire quand même, elle a jamais été proche de la défaite. Mais côté niveau de jeu, c'était pas vraiment ça. En revanche, il va falloir vraiment qu'elle s'améliore, hein. Elle va affronter la Polonaise Magdalinette en 8e de finale. Et vous allez voir, on va l'écouter, Caroline Garcia, elle était satisfaite d'avoir su trouver la solution dans ce match, malgré ce jour sans. Caroline Garcia.
Moi, j'étais inquiète. Hein. Je crois que dans ma box, ils étaient inquiets aussi. Hein. Parce que, en fait, c'était que bah, forcément, je jouais pas très bien, mais surtout, j'étais pas du tout lucide. Je commençais à parler. Enfin, ça devenait un petit peu n'importe quoi, et c'était pas comme ça que j'avais réussi à trouver une solution. Après, si je retrouvais mon calme, oui, j'avais des qualités qui pouvaient forcément l'embêter, mais il fallait que j'arrive à retrouver ce calme et cette lucidité. Je pense que bah, l'année dernière, j'ai réussi à revenir de pas mal de pertes de premier set ou de matchs avec des scénarios un petit peu compliqués. Et aujourd'hui, bah, j'essaie de me rappeler que bah, on était à l'Open d'Australie et qu'il fallait que j'arrive au moins même si je jouais pas un bon match, qu'au moins que j'essaye de trouver une solution, que je me batte jusqu'au bout avec les moyens du bord, que la fille elle aille chercher son match. Et point par point, vraiment concentrée là-dessus, j'ai réussi à voilà, trouver 2-3 embûches hier par-ci, par-là, essayer de mettre la balle une fois de plus dans le terrain. Et c'est pas comme ça que j'aime jouer au tennis, mais des fois, t'arrives pas à faire autre chose, quoi.
Caroline Garcia, tête de série numéro 4 à Melbourne, qualifiée pour les 8e de finale. Christophe Taureau, les 8e de finale qui débutent justement ce dimanche, dans cet Open d'Australie, quelle affiche à suivre en priorité?
Oui, on joue la partie haute du tableau à la fois chez les dames et à la fois chez les messieurs. Et effectivement, parmi les matchs à suivre, on peut citer Hubert Hurkacz face à Sébastien Korda. Sébastien Korda, c'est ce jeune américain tombeur de Daniil Medvedev, hein, qui était le joueur russe finaliste des deux dernières éditions ici à Melbourne. Et puis Korda, c'est évidemment un nom qui vous dit quelque chose. C'est effectivement le fils de Petr Korda qui avait gagné ce tournoi en 1998. Et puis l'autre match fort de la journée, c'est celui qui va opposer Stefanos Tsitsipas, la tête de série numéro 3, au jeune Italien Yannick Sinner, qui lui est tête de série numéro 6.
Merci beaucoup Christophe Taureau, oui. C'est la fin de Mondial Sport, on se retrouve demain.